8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Nous vous proposons une semaine spéciale consacrée aux droits des femmes dans le monde. Elles sont souvent dans leur cuisine pour assurer la popote du quotidien. Elles sont apprenties dans les cuisines des restos. Mais dès que l'on monte en grade dans les brigades, le mot chef se conjugue souvent au masculin. En France, moins de 10% de femmes chefs sont étoilées dans la nouvelle édition du guide Michelin. Et seulement 5% des restos étoilés sont tenus par des femmes. Qu'en est-il en Afrique, où il y a très peu de formation hôtelière? Et peut-on parler de sexisme dans le milieu de la gastronomie? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Anto Cocagne.
Bonjour.
Alias chef Anto, bien connu de nos auditeurs, chef à domicile, autrice du livre Goût d'Afrique chez Mango Édition. Pourquoi d'ailleurs vous dites le chef Anto et pas la chef Anto?
Alors le chef Anto parce que Anto dans ma langue maternelle veut dire femme, et donc le chef Anto c'est le chef au féminin.
Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter deux F et un E.
Non.
Nous sommes également avec Olivia Bumba. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Chef de restaurant La Pirogue à Brazzaville au Congo. Première femme chef d'ailleurs à Brazzaville. Il faut toujours une première hein, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et vous, vous dites madame la chef ou le chef?
Le chef.
Ah oui, pareil.
Oui. Parce qu'en général, je brasse plus d'hommes qui travaillent aussi avec moi. Donc, je ne sais pas trop me situer entre le masculin et le féminin. Donc, je préfère le. Ça donne plus de...
Bah, c'est à l'image de la pirogue. On voyage.
Hein, exactement. C'est vraiment ça.
Nous sommes également en ligne de Londres avec Vérane Frediani. Bonjour Vérane Frediani.
Bonjour, bonjour à toutes.
Vous êtes autrice et photographe, réalisatrice de documentaires. Votre livre « L'Afrique cuisine en France » sortira en juin prochain aux éditions La Martinière. Là, vous êtes actuellement en plein montage d'une vidéo pour le Michelin, pour la remise des étoiles le 18 mars. Bah, encore une fois, je pense que les chefs étoilés vont se retrouver un petit peu minoritaires sur la photo de famille.
Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le guide Michelin en a pris conscience. Il veut aider en fait à la communication sur les femmes chefs. Ah. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en fait. C'est-à-dire que plus on les mettra en avant, plus on peut espérer que les inspecteurs se rendent dans leur restaurant.
Et ben voilà, ça avance doucement mais sûrement. Allez, en fin d'émission, on retrouvera le monde des enfants de Charlie Dupiau. Aujourd'hui, ils sont 9 collégiens autour du micro pour parler égalité entre filles et garçons. Et vous le verrez, c'est un sujet qui les inspire beaucoup. C'est parti.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Alors avant de parler de la place des femmes chefs dans la restauration et la gastronomie, parlons des premiers freins culturels qui commencent souvent dans la famille. Chef Anto, chez vous, à la maison, entre un papa ingénieur, une maman nutritionniste, je crois savoir que chef resto, pour votre père, franchement, ce n'est pas un métier. Hein.
Non, c'est pas un métier parce que culturellement, sur le continent, une fille bien élevée sait cuisiner. Et donc, on n'a pas besoin de l'envoyer dans une école pour pouvoir savoir cuisiner, puisque dès tout jeune, ben, on est affairé aux tâches de la cuisine, à aider les mamans, les tantes, les grands-mères. Donc, quand vous dites après que vous voulez faire des études pour ça, on vous dit, mais tu sais déjà le faire, donc on ne va pas payer. Voilà, donc culturellement... C'est encore dur aujourd'hui pour certains parents de se dire que la cuisine, c'est un métier.
Olivia Bumba, vous, le blocage, ça venait plutôt de notre maman, non?
Oui, hein? c'est exactement pareil. Bon, moi, j'ai perdu mon père un peu plus jeune, mais ma mère voulait que je fasse des études. Je voulais être prof d'histoire à la base.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. Mais après, quand je dis que je voulais faire de la cuisine, c'est... Je crois que c'était un coup de massue pour elle. Elle s'est dit non, ben non, c'est pas un métier. C'est un peu comme vous. Elle a dit mais en Afrique, une femme cuisine déjà. Que c'est pas un métier. Elle m'a dit tu vas pas faire à manger pour des gens que tu connais pas. Après, elle m'a dit. Après, je suis allée m'inscrire à l'école. Elle m'a dit bah écoute, je suis pas d'accord, mais si tu fais quelque chose, fais-le, mais fais-le bien.
Ah, ça, c'est bien.
Votre maman aussi, elle vous a encouragée.
Oui, elle m'a encouragée, mais c'est parce que maman m'a vue toute jeune déjà me débrouiller. J'avais un commerce informel. Je faisais des gâteaux que je vendais d'abord dans ma classe, ensuite dans le bâtiment, dans le quartier. Donc, j'étais connue pour faire des gâteaux et d'être maman gâteau. Ce que voilà. Et ma mère, elle a dit à mon père, mais elle ne sait pas faire grand-chose. Et regarde avec le peu de connaissances qu'elle a, comment elle arrive à se débrouiller. Si on l'envoie en France faire des études de cuisine, quand elle revient, bon, elle sera cuisinière à l'ambassade ou à la présidence de la République. Oui, donc déjà, c'est un peu plus, donc déjà, c'est un peu plus valorisant parce que cuisinière lambda et cuisinière à la présidence, bah, voilà, c'est déjà un peu plus ambitieux.
Ils disent ça tout le temps. Pourquoi ils vous ont dit ça aussi
C'est un peu pareil. J'ai l'impression qu'on a vécu le même parcours parce que moi, depuis toute petite, j'étais tout le temps dans la cuisine. Je vendais aussi des petits gâteaux comme ça pendant les cours, toujours à distraire les autres. Et j'avais déjà cette fibre-là, mais je voyais bien qu'ils n'étaient pas d'accord. Mm. Et souvent, nous, en Afrique, on est un peu très conservateurs.
Oui.
Et quand nos parents ne sont pas d'accord, c'est comme si on n'avait pas la bénédiction pour y aller.
L'autorisation.
Et donc, ouais. J'ai fait du forcing parce que je lui ai dit, c'est ma passion. Si j'y vais pas maintenant, je vais le regretter. Et... Bah, les parents, quand ils aiment, ils nous laissent faire, ils nous regardent de loin. Mais je sais qu'au début, c'était pas
donné, quoi. Voilà,
c'était pas donné, ça l'a pas du tout intéressée, ni de près, ni de loin. Mais aujourd'hui, elle est fière.
Ah bah, j'espère. Véronne Frediani, chez toutes les femmes que vous avez pu rencontrer pour vos documentaires hein, dans les différents métiers de la gastronomie. Le poids de la famille, l'influence de la famille, ça revient souvent aussi ou pas?
Enfin, je pense que de toute façon, le problème qu'on a toutes, c'est s'autoriser à se faire passer en premier dans sa famille. S'autoriser finalement à suivre sa passion, à penser à soi. Ça, c'est un problème commun à toutes les femmes sur la planète.
Ouais, mais est-ce qu'il y avait la notion un petit peu, alors maintenant ça change, hein, on va en parler, que voilà, c'est un métier aussi dévalorisé, on va pas faire la cuisine pour les autres, là on l'a entendu, qui exige des diplômes ou pas, est-ce qu'il y a, selon les origines sociales des chefs, cette notion-là ou pas?
En fait, je pense que c'est le vrai problème, c'est de reconnaître que cuisiner est un métier, un savoir, et même à la maison. C'est un savoir, c'est un métier, c'est pas un dû, c'est pas normal. Les femmes ne naissent pas en sachant cuire des œufs.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Voilà.
Et donc, c'est vraiment un savoir acquis qui peut être professionnalisé n'importe quand. C'est une façon de gagner sa vie. Donc, je pense que c'est l'inverse qu'il faut changer. C'est à la maison, ne plus le considérer comme un dû, comme quelque chose de normal.
Oui, de naturel. Olivia Bumba, vous avez fait une école hôtelière à Paris, hein, dans le 17e arrondissement. Il y avait beaucoup de filles apprenties, qui plus est africaines ou pas? Comment ça se passait?
J'étais la seule.
Ah, vous étiez la seule, décidément.
Oui, ben moi, pareil, j'étais la seule. Oui, j'étais la seule.
Oui.
Et c'est vrai que, comme Véranne dit, pendant longtemps, en rentrant du Gabon, enfin, en arrivant en France, quand je voyais des filles qui ne savaient pas cuisiner, moi, j'étais choquée. Oui. Parce que je me disais, mais comment c'est possible que ça existe? Parce qu'on a grandi dans une culture où c'est normal. Une femme, c'est cuisiner. C'est comme, je ne sais pas, une femme fait des enfants. Et comme,
c'est exactement voilà, ça. C'est...
Mère cuisinière, mère nourricière.
Oui, c'est ça.
Exactement ça. Donc moi, quand je suis arrivée à l'école hôtelière, je me souviens, le jour de l'entretien, on m'a regardée. On était deux, hein. Faut que je dise la vérité, on était deux dans tout le lycée, il y avait un garçon et moi j'étais la fille. Et le jour de l'entretien, on m'a dit, ah bah ce sera plus dur pour vous, vous êtes black. J'ai dit, ah bon, j'avais pas remarqué. Parce que bon, bah, c'est vrai, moi je suis un peu rigolote. Et puis
ça va être plus dur pour vous.
Oui, on me l'avait dit. Mais après, j'ai été un peu la mascotte de l'école parce que j'ai tellement, en fait, c'est ce qu'un peu ce que dit le chef Anto. Pour moi, c'était vraiment ma passion et puis c'était facile. Mmh. C'était facile parce que c'était des bases que j'avais déjà apprises depuis que j'étais petite. Mmh. Donc du coup, être devant un poisson, un poulet, voilà, je le prends dans tous les sens. Sauf que les autres, c'était vraiment, ils apprenaient des choses qu'ils n'avaient peut-être encore jamais vues. Donc, ça m'a ramenée jusqu'au concours du meilleur apprenti de France.
Quand même.
Et ça faisait des années que l'école n'y était pas allée.
Merci, chef.
Oui, et j'étais fière de les avoir ramenés jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas retournés.
Eh ben, c'est bien de le dire d'abord.
Oui.
Véran Frediani.
Mais c'est pour ça, en fait, je pense que ce qui n'est pas normal, c'est que les hommes ne cuisinent pas à la maison. En fait, ça, c'est vraiment pas normal.
Ah, il y en a de plus en plus. Alors, certains vont dire qu'il y en a de plus en plus.
Non, pas les Africains.
Non, pas les Africains.
Non.
Oui, c'est vrai, pas les Enfin, très peu d'Africains. Il y a même des ethnies où c'est interdit pour un homme d'entrer dans une cuisine.
Oui.
Oui. Il faut le dire, c'est interdit. Et quand vous avez un homme qui a des parents qui disent « mais t'es pas une femme et tout, t'as rien à faire ici », ou des mamans qui disent ça à leurs garçons. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut changer ça, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve même avec des hommes qui se marient juste pour avoir quelqu'un qui leur fasse à manger.
Qui leur fasse à manger, c'est vrai.
Bien sûr.
C'est vrai. C'est vrai.
Ça, c'est clair.
Véran, et les femmes comme nous, on est très mal vues.
Allez-y, Véran Frediani, parce que vous êtes à Londres. Donc.
C'est que souvent, ce qui me dérange aussi, c'est que souvent, on fait passer les femmes pour les gardiennes de la tradition. Et donc ça permet aux hommes de faire croire que les femmes ne sont pas créatives en cuisine. Et en fait, cette tradition, il a bien fallu l'inventer. Il a bien fallu créer toutes ces recettes. Et on ne valorise pas du tout le fait qu'à une certaine époque, les femmes se sont retrouvées face à des produits qu'elles ne connaissaient pas, avec peu de techniques et surtout peu de matériel. Elles ont dû créer ces recettes traditionnelles. En France, partout en Europe et en Afrique. Donc aujourd'hui, toujours rabaisser la femme à la tradition, je trouve ça vraiment, comment dire, malhonnête, très malhonnête. Parce qu'en fait, cette tradition-là, elle a été très créative.
Tradition créative, je pense que ça vous cause, hein, Chef Anto.
Oui, ouais. Parce que, et c'est vrai comme Véran le dit, moi, je pense notamment à ma grand-mère. Elle avait une façon de cuisiner, mais c'est parce qu'elle se retrouvait avec peu d'ingrédients. Et donc, elle se disait, tiens, on va essayer comme ça. Finalement, ça devient une recette de famille qu'elle a transmise à ma mère, que ma mère m'a transmise. Mais c'est une recette qu'elle a inventée avec des produits traditionnels. Et c'est la raison aussi pour laquelle, même chez nous en Afrique, dans chaque maison, une recette, si on dit sauce arachide, chaque femme fait la sauce arachide à sa manière parce qu'elle, chacune aussi, a une créativité différente.
Les fameuses recettes de grand-mère. Hein,
c'est vrai, c'est les meilleures. C'est les meilleures.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de chefs hommes qui se disent eux-mêmes inspirés par la cuisine et les recettes de grand-mère, de leur grand-mère ou de leur mère. Hein. On va parler de la place des femmes chefs dans la restauration dans quelques instants. On écoute Marthe Assisolala. C'est un titre à retrouver sur la playlist de RFI.
Hey.
C'est Marthe sur RFI. Oui, oui, on papote de cuisine. On parle de la place des femmes chefs dans la restauration et du sexisme dans le milieu de la gastronomie avec Anto Cocagne, alias le chef Anto, et Olivia Bumba, chef du restaurant La Pirogue à Brazzaville au Congo, et Véran Frediani, autrice et photographe réalisatrice de documentaires. On le disait tout à l'heure, Olivia Bumba, vous êtes la première femme chef à Brazzaville au Congo. Il y a 9 ans, quand vous ouvrez votre restaurant, qui s'appelle donc La Pirogue, certains vous disent, bah, tu sais quoi, ça ne va pas forcément marcher, tu vas fermer dans 4 mois, dans quelques mois. Hein. Qui est-ce qui vous a dit ça et pourquoi?
Des amis, des connaissances, peut-être certains clients qui n'y croyaient pas trop. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je repars au pays, j'ai toutes les bases, mais j'ai des bases de la cuisine française.
Oui.
Donc j'arrive et je redécouvre tout ce que j'ai laissé, au fait. Donc je réapprends à connaître la patate douce, le manioc, enfin tout ce qui gravite autour. Parce que moi, je pars avec mon idée où je me dis, je vais faire ma cuisine comme on me l'a apprise. Avec la cuisine de ma mère, je vais faire un mélange. Mais quand j'arrive, je trouve que le terrain, c'est pas ça. Parce qu'on peut se retrouver à... On a énormément, des fois, de ruptures. On peut avoir des idées, mais on ne peut pas les exploiter comme on veut parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut pour travailler. Donc, du coup, il faut s'adapter.
Mais alors, il y a ces problèmes-là, mais est-ce qu'il y a des résistances au fait, tout simplement aussi, que bah, vous allez être la première femme chef?
Exactement.
Et on se dit, bah, c'est un métier d'homme, quoi.
On dit déjà que c'est un métier d'homme, et puis ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas informés. Ils se disent, ah bon, il y a des diplômes avec ce truc.
On en revient encore, ouais.
Ils se disent, il y a des diplômes, ah bon, elle a fait son école où? Bah, pourquoi elle ne nous l'a jamais dit? Donc, à la limite, il faudrait... mettre ses diplômes en plein milieu dans le restaurant pour que les gens sachent que vous avez fait des études. Et quand je dis que j'ai fait 6 ans, ils me disent 6 ans ?
C'est long.
Pour apprendre à cuisiner ? 6 ans ? Ils ne comprennent pas. Ouais. Parce qu'en Afrique, une femme est en cuisine depuis son enfance. Donc, il n'y a pas de diplôme pour ça. Donc, ils se disent, bon, bah, elle va faire ce qu'on a l'habitude de manger, hein, poisson brisé, manioc, on va manger du saka, et puis c'est bon, non. Et quand ils rentrent dans le restaurant, ils découvrent autre chose, et ils se rendent compte que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient.
Ouais. Est-ce qu'il y a aussi le côté chef Anto, et on donnera la parole tout à l'heure, bien sûr, à Véran Frediani, mais voilà, la légitimité, le côté chef, on sait très bien, on parle de brigade, on sait que c'est un milieu très hiérarchisé, un petit peu militaire aussi, il y a des horaires, un stress ou autre, où on se dit, voilà, est-ce que la femme va être capable d'assumer le rôle de l'autorité, du respect dans les cuisines, dans les brigades?
Ben, c'est
aussi
pas facile chez nous, et c'est vrai que toutes les femmes chefs qui sont en Afrique, que je connais, disent que c'est souvent très difficile pour des hommes d'être sous l'autorité d'une femme.
C'est vrai.
En cuisine. Parce qu'il faut dire oui, chef.
Et oui.
Et le chef, en général, on vous dit toujours, l'homme est le chef de la famille, l'homme est le chef et tout. Et là, vous êtes dans un cadre professionnel, vous devriez dire oui, chef. J'en connais une qui, même, elle était chef. Et elle a sous son commandement des personnes qui sont plus âgées qu'elle, qui pourraient être ses parents, et qui n'acceptent pas qu'une jeune fille qui pourrait avoir l'âge de leur enfant leur donne des ordres, et qui n'arrive pas à dissocier la culture de monde professionnel, qui n'arrive pas à dissocier, et ça, c'est un gros défi que nous, on a sur le continent.
La question de l'autorité, la question de oui, chef, en brigade, de se faire accepter, Véran Frediani, vous l'avez retrouvé beaucoup, vous, dans les témoignages des différentes femmes chefs que vous avez pu rencontrer.
Oui, bien sûr, parce que de toute façon, c'est remettre en question l'ordre établi, finalement, remettre en question l'organisation de la société. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans cette avancée des femmes chefs dans le monde culinaire. C'est aussi une façon pour les femmes de prendre une nouvelle place dans la société tout court. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aux femmes chefs ces dernières années, parce que pour moi, c'était une façon de montrer à quel point il y avait des problèmes dans nos sociétés, et le problème de... pas seulement de la reconnaissance d'un savoir-faire, c'est aussi de la reconnaissance d'une place. Un homme égale une femme. Une femme peut être le chef de la famille ou la chef de la famille. On peut être deux chefs. Mais effectivement, dans les cuisines en France, beaucoup de femmes ont encore du mal à même se faire appeler chef.
Ouais.
Parce que ça résonne avec une hiérarchie qu'on n'a même plus envie d'avoir aujourd'hui, notamment dans les cuisines. Mais en fait, ce commandement-là, est-ce que ça fait du bien aux cuisines, en fait ? Est-ce que ça donne une bonne ambiance dans la cuisine ? C'est aussi associé avec beaucoup de problèmes de harcèlement, de maltraitance et d'abus. Voilà. Donc, je pense que l'arrivée des femmes dans les brigades en France, ça remet aussi en question cette organisation-là de brigade inventée par Escoffier, qu'on respecte bien sûr, mais qui peut-être ne colle plus du tout à l'époque.
Et bien, un vrai mouvement de fond, effectivement, qui va être en marche. Il paraît que vous, Olivia Bumba, il y a un de vos seconds qui n'a pas supporté d'être sous vos ordres. Et comment ça s'est passé ?
Il n'a pas supporté, pourtant c'était un très bon élément, mais il était... il ne supportait pas.
Il supportait pas quoi ?
Il supportait pas de m'appeler chef, il supportait pas que je lui donne des ordres. Et un jour, il a craqué, il m'a dit « je peux pas être sous une femme ». Et il est parti. Il m'a dit « je peux pas, je ne peux pas ».
Oui, il s'est senti diminué, moins viril.
Exactement.
Alors que ça n'a rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir. Et je le vois même au niveau... parce que moi, je contrôle un peu tout dans mon restaurant au niveau du service. Et ce que le chef Anton est en train de dire, c'est vrai. En Afrique, ils aiment beaucoup le respect du grand.
De l'aîné.
Et de l'aîné. Et moi, je ne peux pas accepter qu'au niveau de mon travail, même si j'emploie quelqu'un qui est plus âgé que moi, que je sois en train de l'appeler papa ou que je sois en train de lui dire « Ah, s'il te plaît, tu peux ». Non, la cuisine, moi, j'ai toujours dit, c'est comme l'armée. C'est oui, chef, et puis c'est tout.
Ah oui.
Il n'y a pas... Voilà, tu veux pas, c'est pareil. On est là pour travailler, pour donner un rendu. Et puis nos émotions, on les garde dans les vestiaires et c'est tout.
La cuisine, c'est comme l'armée pour vous aussi, chef Anto ?
Oui, la cuisine, c'est comme l'armée, dans le sens où il y a un ordre. Il y a quelqu'un qui porte les responsabilités, qui couvre les autres, qui est devant, qui est la tête. Et qu'à un moment donné, si cette personne-là, c'est une femme, ben, tout le monde se range derrière, c'est tout. Il ne peut pas avoir, en tout cas en cuisine, il ne peut pas avoir deux chefs. Quand on dit plusieurs visions, ça donne division. Et voilà, quand il y a division, ben, c'est la division. Il faut qu'il y ait une personne qui soit devant et puis les autres derrière suivent. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, je sais, en 2010, quand j'ai voulu rentrer au Gabon et que j'ai commencé à postuler, on m'a dit, mais une femme, ça cuisine à la maison, vous allez arriver, après, vous allez avoir des enfants, après, vous allez commencer à avoir vos ragnagnas, après, vous allez... En fait, on m'a sorti tous les préjugés qu'on peut avoir sur les femmes et pour me dire qu'en fait, vous n'êtes pas faite pour le poste parce que, qu'une femme, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, moi-même, j'ai voulu abandonner parce que je me suis dit, ça ne colle pas avec une vie de famille, ça colle pas, avec j'y arriverai pas parce que la société n'est pas prête.
On a tous voulu abandonner.
Oui.
Être chef et être mère aussi à la fois, forcément j'imagine peut-être, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré ou pas, Vera Nfrediani, mais peut-être beaucoup de femmes ont peut-être renoncé à ce métier-là en disant que ça n'allait pas être forcément compatible avec la fameuse vie de famille.
Oui, mais en fait, à chaque fois qu'elles ont abandonné, c'est parce que les hommes leur ont dit qu'elles n'en seraient pas capables. C'est ça qui est le plus triste, en fait. Parce que quand les femmes se réunissent et parlent entre elles, et on l'a fait notamment avec la chef Anto pendant le confinement, il y a eu beaucoup de Zoom fait entre femmes chefs qui se sont justement posé ces questions-là. On voyait bien que quasiment toutes étaient mamans et avaient une carrière. Il n'y avait aucun souci, il y avait des solutions, des organisations. Les hommes sont entourés. Quand ils sont chefs, ils sont souvent papas aussi. On ne leur pose jamais la question. Quand on la leur pose, ils répondent de façon très rapide que leur femme s'occupe de la maison. Mais en fait, une femme a besoin aussi d'être entourée et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de sa famille quand elle ne le peut pas. Et ce n'est pas grave. Voilà, une femme heureuse qui crée et qui est dans sa carrière sera heureuse aussi en famille. Et ça, c'est primordial en fait pour le bonheur de la famille. Le sacrifice, ça ne rend personne heureux.
Je vois sourire nos deux chefs là, Olivia Bumba.
Le sacrifice rend personne heureux.
C'est vrai. Mais vous avez aussi, vous êtes maman. Avez, voilà. Notion de sacrifice, c'est revenu, ça a été lourd.
C'était lourd parce que quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai été remerciée.
Remerciée, c'est-à-dire
virée.
Oui. Par.
Un hôtel où je travaillais, un hôtel prestigieux.
Mais viré, c'est-à-dire que quoi ?
Ils m'ont remercié, ils m'ont dit ça va pas être possible.
Vous êtes
ils m'ont dit vous pouvez pas tomber enceinte là maintenant. Vous êtes la seule chef. Comment on fait sans vous ? Je dis et moi comment je fais pour ma vie ? Vous voyez, aujourd'hui j'en ai qu'une, donc je l'aurais pas sacrifié non plus pour le travail. Et puis j'étais capable de continuer. Et ils m'ont dit non. Après vos congés, là vous allez aller en congé, mais après ça sert à rien de revenir. On va s'arranger à l'amiable et tout. Et
hôtel prestigieux, hein, on ne dira pas le nom, mais bon.
Mais c'est ça le problème, c'est que les 8 milliards de voisins, qui les a mis au monde en fait ? Les femmes. Donc à un moment donné, il faut bien que la société s'organise pour que ces 8 milliards de voisins existent. Donc soit on repense l'organisation du travail en se disant, effectivement, on a besoin de milliards de voisins, donc on est obligé d'avoir des femmes qui, à un moment donné, prennent le temps de mettre au monde les 8 milliards de voisins. Mais ce n'est pas à nous, en fait, de nous faire petites dans notre coin. C'est à la société entière d'organiser le travail autour de ça.
Chef Anto, vous aussi, vous avez deux garçons.
Oui.
Vous le disiez, j'ai failli renoncer. C'est une culpabilité qu'on a plus, entre guillemets, quand on est une femme, en se disant, qu'est-ce que je fais ? On sait que c'est des horaires aussi totalement stressants, décalés.
Ah non, c'est complètement ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, je veux le beurre, l'argent du beurre, épouser le fermier, être la tenancière de la boutique. Mon choix, c'est de tout avoir en même temps. Donc, comment s'organiser pour ça ? Alors, j'ai la chance, et je sais que ce n'est pas le cas de toutes les femmes, d'avoir aussi un conjoint avec qui on s'est assis. Et puis, moi, je lui ai dit, voilà ce que je veux. Et on s'est organisé parce qu'avec toutes les activités que j'ai aujourd'hui, que ce soit en tant que chef privé, les chroniques, les émissions, les voyages, aujourd'hui, je peux être une maman présente et en même temps travailler et faire pas mal de choses. Donc, c'est possible. Mais il faut aussi avoir un conjoint qui soit là pour aider cette femme-là. Mmh. Et beaucoup de femmes ont renoncé à leur rêve d'être maman. Ou alors sont devenus chefs une fois que se sont lancés dans leur rêve de cuisine une fois que les enfants étaient un peu plus grands, ou alors renoncent au rêve de cuisine parce qu'elles veulent, elles sont toujours tiraillées entre le projet professionnel et la vie de famille. Et c'est vrai que ce n'est pas juste parce qu'un homme, il se pose pas la question.
C'est vrai.
Est-ce que le regard des chefs hommes, cette fois-ci, a un petit peu quand même changé avec le temps ou pas sur leurs consoeurs, même si elles ne sont pas si nombreuses que ça, Vérane Frediani ?
Non, elles sont nombreuses, cela dit. Elles ne sont pas nombreuses étoilées, mais elles sont nombreuses, les femmes chefs. Bien sûr, le regard a changé. Alors, il n'est pas totalement... comment dire, le changement... ne veut pas dire qu'ils pensent différemment. Mais en tout cas, ils agissent et parlent différemment parce que sinon, ils savent qu'aujourd'hui, ils seront vus comme des chefs ringards. Voilà, donc ils ont pris le train en marche. Les grands chefs étoilés, notamment, qui étaient très misogynes, aujourd'hui se retiennent font attention à avoir une équipe mixte en cuisine. C'est pas que ça soit vraiment devenu leur idéal, mais ils ont bien compris que c'était la nouvelle donne et que s'ils voulaient pas passer juste à la trappe et pouvoir continuer à communiquer sur leur personne magnifique, il allait quand même falloir montrer un petit côté moderne, si superficiel. Voilà.
Pour ne pas être un gars. Alors, on le sait, sur le continent, il y a aussi un vrai problème de la formation aussi hôtelière, de la transmission des savoirs. C'est une vraie question aussi. Olivia Bumba, vous formez des jeunes, vous.
Oui.
Des jeunes et des femmes.
Oui.
Avec quoi ? L'envie de monter une école ? Il n'y a pas d'école ?
J'ai cette envie-là de le faire, mais je veux que ce soit une école qui soit structurée, avec des vraies bases, avec des vrais diplômes qui sont homologués, leur offrir une vraie formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent être chef ou cuisinier ou commis, peu importe, en un mois, en deux mois. Ça ne se passe pas comme ça. Ça va dans la continuité. Même nous, aujourd'hui, en tant que chef, on apprend encore tous les jours. Tous les jours, ça ne s'arrête pas. On apprend tous les jours. Je pense que, chef Anto, vous étiez dans un hôtel à Brazzaville. Si vous avez rencontré des femmes en cuisine, je les ai formées. Il y en a beaucoup qui sont passés entre mes mains parce qu'il y a eu une grande formation qui s'était passée à Brazzaville et j'ai été le chef qui avait été choisi pour former les élèves de la cuisine. Je les ai formés, mais après, le grand problème qu'on a rencontré, c'est où les replacer, où les suivre, comment faire pour les placer en stage. Parce qu'il faut savoir que la plupart des chefs sont des étrangers. Donc, ils ne viennent pas forcément avec la vision de former. Ceux qui veulent former, ce sont les locaux.
Donc du coup, je me suis retrouvée en ouvrant mon restaurant avec une quinzaine de stagiaires. Je faisais des roulements par passion et par amour du métier. Mais à un moment, c'est plus possible bien parce sûr. Que former, c'est utiliser beaucoup de marchandises. Et puis, il y a des réalités en Afrique. Quand vous voulez former quelqu'un, vous le nourrissez, vous payez son déplacement pour qu'il devienne demain quelqu'un. Et ça, faut le faire avec le cœur parce que sinon, on n'a pas encore les bases ni les financements pour faire ça. Donc vraiment, faut avoir ce cœur-là. Et je pense que pour le moment, bon, les autres, je ne les connais pas, mais je fais partie des chefs qui le font avec le cœur. On perd un peu, mais on est content de transmettre parce qu'un jour, on nous a transmis.
C'est oui, ça, la question de la formation.
Et c'est vrai que pour moi, qui suis souvent appelée par des groupes hôteliers pour faire des formations, souvent, les gens qui forment, en tout cas pour des hôtels, ils forment des gens qui vont rester chez eux. C'est difficile de former quelqu'un qui va partir ailleurs. Parce, pourquoi ? Parce que quand on forme, c'est un investissement. Et donc, une entreprise qui forme, elle veut un retour sur investissement. Elle se dit, je forme quelqu'un qui va rester et qui va justement apporter quelque chose à l'entreprise. Alors que lorsque vous formez quelqu'un qui part, qui ne va peut-être pas revenir, de l'argent que vous dépensez. Et à un moment, les gens vont vous dire, moi, je ne suis pas l'abbé Pierre, je ne peux pas former. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros souci de formation. Et puis aussi, pour les jeunes, quand on les forme, de eux continuer le travail. Parce que ça veut dire qu'il faut continuer. Moi, j'encourage certains. Je dis, mais tu as un téléphone, regarde des vidéos sur YouTube de comment on fait ci, comment on fait ça. Il y a plein de choses. Plutôt que de passer du temps sur des réseaux sociaux pour regarder n'importe quoi, sur YouTube, c'est une formation gratuite. Il y a plein de chefs qui montrent des choses. Donc, mais c'est vrai qu'on a un vrai défi au niveau de la formation. Et il faut que nos gouvernements se rendent compte que la gastronomie d'un pays... c'est de la culture et la culture est importante. Pourquoi la France aujourd'hui est très puissante par rapport à la gastronomie ? C'est parce que elle a investi, elle a formé, on a créé des écoles, des centres de formation. Et aujourd'hui, un chef d'État étranger peut pas venir en France sans manger français. Vous mangez à l'Élysée, vous mangerez 100% français dans de la vaisselle française parce qu'on veut vous montrer
la beauté de la culture. Et
exactement. Mais aujourd'hui, dans nos pays, ce n'est pas le cas. Souvent, dans nos pays, le chef d'État français arrive, on le fait manger français. Et moi, je dis, mais c'est une aberration d'arriver au Gabon et de faire manger de la cuisine française au président Macron. Faisons-lui des produits de chez nous, travailler de façon moderne, mais des produits de chez nous et qu'il voit que nous aussi, dans notre pays... on a des choses.
Ça vous fait réagir, Vérane Frediani, on parle de la question de la formation, question du financement
aussi.
Oui,
parce que de toute façon, en France, la gastronomie est gérée par le ministère des Affaires étrangères, donc tout est dit. C'est un outil, la gastronomie pour
de
la France.
De diplomatie ou de relations
extérieures. De diplomatie, mais aussi c'est un peu la vitrine de la France, en fait, quelque part. Et donc, c'est notre marketing. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de faire. On voit que ça marche.
Je crois savoir que vous n'êtes pas très, très tendre aussi, Vérane Frediani, envers les critiques gastronomiques, qui sont d'ailleurs majoritairement masculins, qui seraient beaucoup plus sévères avec les femmes chefs, c'est vrai ?
Non, déjà, il y a un problème de vocabulaire. Il y a deux vocabulaires. Il y a un vocabulaire pour parler de la cuisine d'un homme chef et un vocabulaire pour parler de la cuisine des femmes chefs. Il y a toujours cette fameuse question de la cuisine féminine qui n'existe pas. La cuisine de femmes, ça n'a aucun sens. Et puis, on a toujours droit au petit vocabulaire du type délicat, élégant, raffiné, fleuri. Et on voudrait que les femmes cuisinent tout le temps avec des fleurs et dans des assiettes roses.
C'est vrai.
Et ça, c'est grotesque, en fait, parce qu'il y a des hommes qui ont une cuisine, on va dire, très raffinée et qu'on pourrait peut-être qualifier de féminine. Et voilà, parce que la société a décidé que le féminin, c'était le raffinement. Mais là, oui, j'en veux beaucoup aux journalistes qui ne posent pas les mêmes questions, ne parlent jamais de technique et de créativité avec les femmes chefs. On va toujours avoir une description, de toute façon, du sourire de la dame, de son apparence physique, de savoir si elle est sympa ou pas, souriante ou pas. Mais un homme, on va déjà jamais lui parler de sa famille. Vous demandez, alors comment vous faites avec vos enfants ? Vous les voyez combien de fois par semaine ?
Qui garde les enfants ? La fameuse question.
Oui.
Voilà.
Voilà. Et trouvez-vous normal, en fait, que ce soit votre femme tout le temps qui les garde ? Et puis alors surtout, la plupart du temps, la femme du chef, hommes, elle se tape, parce que je veux dire, elle se tape l'administratif du restaurant sans être payée, sans être rémunérée, sans être déclarée. Et on nous raconte que c'est formidable que l'homme chef ait fait tout ça. Mais la femme, souvent, son mari ne fait pas l'administratif. Donc la femme chef, non seulement elle doit être souriante et sympathique, mais bien souvent, elle fait les deux jobs, c'est-à-dire la cuisine, mais aussi l'administratif.
Invisible, c'est ça.
Et ça, personne n'en parle. Aucun journaliste n'en parle. En fait, cette problématique-là de la double tâche que les hommes chefs souvent n'ont pas, pas à faire.
Alors, vous ne voyez pas nos invités en studio, mais Olivia Bumba, elle vous écoute, elle n'arrête pas de dire « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. »
C'est vrai. C'est tellement vrai.
Là, il nous reste une petite minute. Alors, on n'aura pas eu le temps d'écrire vos recettes. Parce que vous êtes venues chacune avec des recettes, puis des gâteaux, etc. Mais on les mettra sur le site de l'émission. Alors, un beignet de riz recette pour vous. Et puis, je ne sais pas ce que vous aviez prévu, chef.
Un ananas meringué.
Et bien voilà, on mettra ça sur notre site. Une dernière minute. Voilà. Quel est le message que vous vouliez faire passer, par exemple, à nos auditrices qui nous écoutent et qui disent bah, « Tiens, moi, j'aimerais un jour ouvrir un resto, être chef. » Quel dernier message
Ben moi, le dernier message, ce serait « croyant en vos rêves. Croyant en vos rêves, même si on vous dit que c'est difficile, même si on vous dit que vous n'allez pas y arriver et que c'est compliqué, il y a toujours un jour, au fait, quand on a la passion. Moi, je dis toujours la passion, parce qu'il faut l'avoir, la passion. Peu importe ce qui nous arrive, il faut avoir la passion.
Croyez en vos rêves.
J'ai entendu chef Anto la dernière fois qui disait « On ne soutient pas la médiocrité. Je suis du même avis que vous. Alors, si on veut réussir, on ne doit pas soutenir la médiocrité et on doit se donner les moyens d'y arriver. On ne doit pas se limiter à notre couleur de peau. On ne doit pas se limiter à des on-dit. On doit croire en notre rêve et puis taper dedans, c'est tout.
Taper dans nos rêves, très rapidement, le mot de la fin.
Moi, je dirais, osez vous choisir en premier.
Bien.
Parce que souvent, on choisit les autres, on pense aux enfants, on pense à la famille, on pense à tout le monde, sauf à soi, en fait.
C'est ça.
Et moi, je dirais aux femmes, osez vous choisir en premier.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, chef Anto.
Merci.
Merci beaucoup, Olivia Bumba. Bon retour, c'est pour ce soir. Merci.
Merci.
Et puis, vive la solidarité féminine.
Et bien voilà, ça sera le mot de la fin de Vérane Frédiani.
Merci.
Merci à vous trois. Allez, dans quelques instants, on va retrouver le monde des enfants de Charlie Dupio. On écoute les mamans du Congo avec Consolation sur RFI.
Au cœur dans des soupirs inattendus, apaisant le corps par d'autres pensées. La vie change de visage à la seconde. Dès que le souffle qui s'était coupé revient, dans la cadence imprévue d'une expiration, qui fait naître une nouvelle décision. Dans l'eau, respecte le vent qui t'agresse, ferme les yeux, baisse au mieux ta tête s'il souffle trop fort, tourne-lui le dos, tourne-lui le dos. quand tu changes de route. Ouvre tes yeux, ouvre aussi ton cœur. Vole haut comme l'oiseau prudent, vers d'autres joies, vers d'autres espoirs.
Congo sur RFI, allez, c'est l'heure de retrouver le monde des enfants de Charlie Dupiau. Dans cet épisode, ils sont 9 autour du micro, ils ont entre 10 et 12 ans, ils sont élèves à l'école privée internationale Henri Farman, c'est à Reims, dans le nord-est de la France. Voici dans l'ordre d'apparition Vincent, Emma, Cyprien, Maya, Pauline, Arthur, Marius, Célia et Lorena.
RFI.
Le monde des enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
On avait une autre prof d'anglais. Par exemple, je sais pas, le garçon, il faisait tomber sa règle. Il se faisait mais défoncer. La fille, elle pouvait parler, elle pouvait se lever. Tranquille, à la poubelle sans demander. Et là, la prof, elle lui disait juste, s'il te plaît, rassieds-toi. C'était impressionnant. Et c'est en sport aussi. Elle disait, vous laissez les filles jouer, les garçons. Je les vois presque pas jouer. Alors, toi tu vas dehors. Il y avait plus que des filles sur le terrain. Mais c'était normal.
J'étais en CM1, bah, les garçons, ceux qui jouaient au foot, quoi, ils prenaient à peu près toute la récré. Les filles, ils disaient, mais laissez-nous jouer un peu, on n'a plus assez de place.
Et toi, tu es un garçon?
Je joue au foot, mais je ne suis pas du côté de ces garçons-là parce que je trouve qu'ils sont trop bruts.
Bah, moi, je suis la seule fille à savoir faire du foot. Du coup, bah, moi, je me retrouve toute seule contre des garçons, des fois. Des fois, les garçons, ils me traitent de nul parce que je suis nulle, mais...
Ce que disent les garçons quand tu joues au foot avec eux?
Bah oui.
Mais en vrai, elle joue bien. Hein. J'ai déjà vu jouer. C'est pas la plus nulle. Je connais des plus nuls.
Est-ce que ça te décourage de jouer quand on me dit ça?
C'était énervant. Donc j'ai arrêté.
Du coup, en étant une fille qui a 3 grands frères, du coup, je jouais souvent au foot avec eux en allant au stade et tout. Quand j'étais en primaire, il y a beaucoup de filles qui me traitaient souvent de garçon manqué. Et du coup, bah, à un moment, j'ai dit oui, mais maintenant c'est mon corps, je fais ce que je veux. Et du coup, j'ai continué à rejouer au foot, etc.
Alors moi je trouve que c'est par rapport à la récré, des fois les filles elles acceptent pas les garçons dans leur jeu. Des fois elles font des jeux de filles que j'aimerais bien aussi jouer, puis elles ne m'acceptent pas des fois.
Quel jeu?
Des fois elles font des chasses au trésor et puis elles m'acceptent pas, elles disent on est déjà au complet ou...
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'égalité entre les filles et les garçons?
L'égalité filles-garçons, ce serait d'arrêter que bah, ce soit toujours les femmes qui fassent le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants, tout ça, qui arrive encore des fois dans des familles que les hommes, donc le papa, peut avoir lui tout ce qu'il veut et faire ce qu'il veut.
C'est faux,
pourquoi
c'est vrai?
C'est pas vrai, c'est pas les filles qui font tout, hein.
La plupart des choses quand même, hein.
Mon père à la maison, c'est lui qui fait le plus les tâches ménagères et tout ça comparé à ma mère, hein.
Bah, peut-être, je prends Emma, ta mère, peut-être elle fait plus le ménage que ton père, mais ton père, lui, il travaille peut-être plus que ta mère, tu vois. Donc c'est réparti égalitairement les tâches.
Moi, je dis que c'est totalement faux parce qu'il y a des femmes qui travaillent, qui font le ménage, qui font la cuisine, qui font tout, alors que les papas, eux, ils font rien du tout, alors qu'ils travaillent même pas et tout ça. Excusez-moi, mais dans l'égalité, c'est 50-50.
Pourquoi c'est important, selon vous, qu'il y ait une bonne répartition des tâches ménagères à la maison?
On prend exemple, le père, au hasard, il va aller dormir, je sais pas, tôt. Et là, par exemple, la femme, elle va faire le ménage, hop, elle termine à 21h. Le lendemain, elle doit aller au travail. Et du coup, elle est fatiguée parce qu'elle a terminé à 21h, alors que lui, le papa, il travaillera super bien et tout parce qu'il n'a rien fait et qu'il sera endormi tôt.
À la maison, avant, c'était un peu comme il a dit. Donc du coup, on a décidé d'instaurer un tableau des tâches ménagères. Donc, ma mère, elle n'en fait pas partie, elle fait la cuisine. Et nous, à tour de rôle, on débarrasse, on lave la vaisselle et on l'essuie et on la range. Ma sœur, moi et mon père... Donc à tour de rôle, comme ça, ça permet d'équilibrer la balance, on va dire.
Étant la petite dernière, c'est plutôt moi qui fais le ménage, etc. Alors que les garçons, ils sont toujours sur console et tout. Et du coup, bah, à un moment, je l'ai dit à ma mère, et ma mère a dit « Mais oui, mais c'est rien parce que c'est des garçons. »
Au Moyen-Âge, bah, les filles, justement, devaient élever leurs enfants, tout ça, alors que les garçons étaient comme des rois.
Pourquoi un garçon aura plus quelque chose qu'une fille quand on est adulte et qu'on travaille? Les garçons, ils sont mieux rémunérés que les filles.
Ah oui, oui.
Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'au même poste, on ne soit pas payé pareil.
Pour aller, une fille serait moins payée qu'un garçon. Déjà, ça peut avoir des impacts, parce que si la fille elle est célibataire, bah du coup, elle pourrait être pauvre, déjà. Alors qu'à côté, il y a un garçon, il vit sa vie riche dans une maison, dans une grande, avec un grand jardin, etc.
Peut-être que les filles, elles sont moins bien payées, parce que, je sais pas, moi, peut-être qu'elles font mal les choses. Être, je sais pas.
Moi, je trouve que c'est complètement inégal et puis c'est pas du tout justifié.
Les filles, vous avez qu'à faire une grève et puis demander plus, hein.
C'est vrai, si elles sont pas contentes, elles font une grève et puis voilà.
Moi, je ferais de la révolution pour que tout ça, ça s'arrête jusqu'à ce que les filles soient payées pareil que les hommes.
Et toi, donc, tu es un garçon, tu vas mener cette mobilisation.
Tout à fait.
Je vais l'aider, hein. Je vais l'aider.
J'espère bien, t'as intérêt, hein.
Ah oui, t'inquiète. Hein.
Je t'aiderai pas du tout. Je t'aiderai, hein.
Je suis contre toi.
Tout pour les filles.
Le monde des enfants de Charlie Dupuy avec des enfants qui ne manquent pas d'humour comme d'habitude. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve demain à la même heure pour la suite de notre série consacrée aux droits des femmes dans le monde. On parlera du quotidien des femmes afghanes. Depuis l'arrivée des talibans en 2021, la répression s'est aggravée envers les femmes et les fillettes privées de tout, d'éducation, d'emploi, d'accès aux soins. Quels sont leurs moyens de résistance? On en parle demain. Belle journée à l'écoute de RFI.